Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Alors, mon cher Mathieu, Marie-Louise Arsenault, notre animatrice préférée qui sévit à Radio-Canada et à Télé-Woke, Télé-Québec, je me suis trompé. Alors, donc, Marie-Louise Arsenault, sur Twitter, a écrit « J'ai passé 2 heures avec des jeunes de 15 et 16 ans à entendre parler de colonialisme, de féminisme, de racisme et des enjeux liés au genre. Avis à ceux que tout cela exaspère, vous avez pas fini d'en baver, cette génération est en feu. » Donc, pour elle, tous les jeunes sont woke.
Ben, il y a 2 choses. Premièrement, se pencher vers des jeunes de 15-16 ans à la manière de porteurs d'une vérité nouvelle, sans se demander d'où tirent-ils ces idées globalement, devrait être, il y a quelque chose d'un peu étrange dans une telle affirmation. Hein. C'est-à-dire, on devrait quand même se demander qu'est-ce qui fait que ce sont les idées qui se répandent dans une génération. On pourrait se questionner sur le discours dominant dans l'institution scolaire, par exemple, mais c'est une question comme ça. Ça dit... Moi, j'ai quand même envie, une fois que tout cela est dit, de dire que il ne faut pas croire que tous les jeunes aujourd'hui se versent dans la wokitude, et plusieurs des jeunes intellectuels les plus intéressants à percer en ce moment, ils sont tous en train d'écrire leur premier livre, ils écrivent déjà des articles dans les revues, dans les journaux, ils participent à la vie publique, et j'aimerais en présenter quelques-uns aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux parmi les plus intéressants critique justement cette espèce d'hégémonie idéologique, cette hégémonie, cette wokeness, cette woketé, ce wokisme dominant. Alors, je me vais les présenter brièvement, qui va en dire un peu plus sur chacun d'entre eux après. D'abord, l'un d'entre eux, parce qu'il a fait paraître un texte il y a quelques jours dans nos pages, dans le Journal de Montréal, Alexis Tétrault, qui a publié un texte magnifique, « Lettre à un jeune intellectuel québécois », où il remettait en question l'obsession raciale qui commande aujourd'hui les rapports sociaux, qui commande la représentation des identités. Il se tournait vers l'œuvre de d'André Gladue. Et là, à partir d'une réflexion sur l'œuvre de Gladue, il se penche sur le rapport à l'identité qu'ont les Québécois, qu'ont les francophones en Amérique, au-delà de la couleur de la peau, en voyant comment la culture, l'histoire, la langue, c'est infiniment plus important que la couleur de la peau en tant que telle, que les véritables solidarités humaines se créent là. Alors, Alexis Tétrault, c'en est un qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines années, qui est tout à fait intéressant. Un autre, Étienne-Alexandre Beauregard. Étienne-Alexandre Beauregard, qui a son propre blog, qui publie de temps en temps, d'ailleurs, sur nos... sur le site journal dans la section Faites la différence, mais qui a son propre blog, une machine, hein, faut le dire comme tel, une capacité de production exceptionnelle, je crois qu'il a 20 ans, une capacité de décrypter les discours dominants, une capacité de lecture remarquable, une critique fine, nuancée chaque fois de l'idéologie dominante, à partir d'une lecture des textes, hein, parce qu'à la différence de ceux qui répètent les prières et slogans de l'époque, il lit les textes pour vrai, et à partir de là, il construit une réflexion sous le signe du nationalisme québécois, d'un nationalisme tout à fait éclairé, qui rappelle, qui porte un discours critique sur les questions d'immigration, de multiculturalisme, tout ça, mais à sa propre manière, avec sa propre sensibilité. Donc, Étienne-Alexandre Beauregard à suivre. Deux derniers, mais je pourrais en nommer plusieurs autres. Comment ça veut dire? Philippe Lorange.
Ben oui,
Philippe
ben
Lorange,
oui.
Qui est parti il y a 1 an et demi à peu près, il a lancé le manifeste contre le dogmatisme universitaire, hein, le dogme universitaire. Il était capable de fédérer plusieurs personnes pour dénoncer justement, bien avant que ça soit à la mode, tout ce discours aujourd'hui qui, dans les, pas seulement d'étudiants, de professeurs souvent, qui utilisent leur classe pour faire une forme de propagande d'une manière ou de l'autre, qui idéologisent le savoir, ce savoir universitaire qui est en fait trop souvent une forme de militantisme idéologique maquillant discours expertocratique. Il a une plume magnifique, Philippe Lorange. On peut le lire souvent, il publie partout des lettres ouvertes et ainsi de suite. C'en est un qu'il faut suivre. Un dernier que je me permets de mentionner, mais comme je dis, il y en aurait d'autres, David Santarossa, qui lui, autour de 25-26 ans, je crois, peut-être 27, parce que si je me trompe, qui publie très souvent dans les pages de la revue Argument, l'excellente revue Argument. Il a notamment publié, il y a quelques mois, une critique très fine et très détaillée du film « Briser le code » de Fabrice Ville. Il avait critiqué très finement le livre de Judith Lucie, on ne peut plus rien dire. On le peut lire très souvent sur Twitter, soit dit en passant. Alors, David Santarossa, c'en est un autre qu'il faut suivre et qui est particulièrement intéressant dans sa critique de l'idéologie dominante. Et pourquoi je prends la peine... Oui, excuse-moi.
Non, mais je veux dire, tu sais, être jeune, là, avoir dans la vingtaine, fin vingtaine, là, et avoir, défendre ce genre d'idée-là, alors que on sait quel climat règne dans les universités, il faut que tu sois particulièrement courageux.
Ah ben oui, il faut un vrai courage parce qu'il y a un prix à payer ensuite sur le plan académique, il y a un prix à payer sur le plan professionnel, il y a un prix à payer sur la possibilité de faire carrière dans la vie de l'esprit, la vie intellectuelle, parce que les postes risquent d'être bouchés, les postes risquent d'être bloqués, l'institution n'est pas particulièrement accueillante envers la diversité intellectuelle. Enfin, c'est la seule forme de diversité qu'on n'aime pas aujourd'hui, la diversité intellectuelle, la diversité des idées, la diversité des points de vue. Donc, il construit, et mais ce qui est passionnant, c'est que, et ça c'est le propre des positions, on pourrait dire dissidentes, c'est qu'il y a un discours dominant. Et pour entrer dans l'espace public, il déconstruit justement cette hégémonie pour montrer comment c'en est une. Il montre comment un discours qui se présente comme naturel, comme allant de soi, comme étant le sens commun, comme étant incontestable, qu'on puisse même pas le contester, imaginer le contester, ils le prennent, ils le décryptent, ils le critiquent, ils en font un travail, ils font de ce point de vue un vrai travail d'hygiène intellectuelle. Je me permets d'ajouter, parce que c'est pas un détail, ils écrivent très bien. Hein? Mmh. Toute la différence, je crois, entre ceux qui répètent le catéchisme dominant des sciences sociales, puis qui, en fait, Félix a écrit en écriture inclusive, avec des points médians, des traits hachurés, puis ça devient lisible quelquefois, et des gens qui non seulement ont une vocation intellectuelle, mais en plus savent écrire. Il y a une dimension personnelle dans ce qu'ils recherchent. Il y a une quête personnelle qui transparaît dans le style. Je pense à Philippe Lorange, qui a véritablement une plus dans le meilleur sens du terme, une plume polémique, hein, qui sait porter la querelle sur l'essentiel. Alexis Tétrault, qui a une plume mélancolique, d'une beauté dans ses analyses. Santa Rosa, une écriture très sobre, très analytique et qui décrypte. Et tel Alexandre Beauregard, qui sait reprendre le langage des sciences sociales pour être capable de déconstruire ce qu'elle nous propose. Donc, il y a quelque chose, il y a un moment intellectuel qu'on ne voit pas en ce moment parce qu'il n'est pas repéré par les figures autorisées de la pensée subventionnée. Mais, et le tribunal woke qui se permet de dire si on est devant quelque chose qui est intéressant ou non. Mais il se pourrait que ces jeunes esprits, nous soient tout à fait intéressants dans les prochaines années, qu'ils nous, autrement dit, qu'ils incarnent une véritable résistance intellectuelle. D'ailleurs, Étienne Alexandre Beauregard a répondu au tweet de Marie-Louise Arsenault en disant: à tous ceux qui croient que le nationalisme est un combat d'arrière-garde, vous n'avez pas fini d'en baver non plus. Ma génération n'est pas qu'un ramassis de militants woke et intersectionnels.
C'est
une formule assez bien tournée quand même. Donc non, je pense qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à cette génération qui apparaît, qui n'est pas reconnue par l'institution comme telle, mais qui fait sentir un désaccord intellectuel, qui fait sentir un désaccord de fond et qu'il faudra suivre. Moi, je suis très curieux de lire leur premier livre dans les prochaines années. Ça va être, je crois, à chaque fois un événement intellectuel.
Tout à fait. Et lorsque c'est toujours la même chose, quand on parle des musulmans, on montre toujours des musulmans voilés et jamais les musulmans non voilés. Et lorsqu'on parle des jeunes, on montre toujours les jeunes woke, alors qu'il y en a qui ne le sont pas. Écoute, Mathieu, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu serais capable de reconnaître le talent et le cheminement, les raisonnements de jeunes intellectuels qui sont pas woke, mais qui sont fédéralistes?
Ah ben bien sûr, non mais je me rappelle là-dessus, pour avoir eu le privilège d'enseigner régulièrement, je continue d'enseigner un peu, mais donc beaucoup plus jeune, je voyais quelquefois des étudiants que je trouvais remarquablement intelligents, brillants, tout ça, qui n'étaient pas particulièrement de mon école, disons ça ainsi, qui étaient, on n'était pas appelés à voter de la même manière, mais par la qualité de leur lecture, par la qualité de leur réflexion, ils construisaient quelque chose, c'est-à-dire c'était pas simplement, ils récitaient pas un credo, il y avait une réflexion appuyé sur des lectures, parce que c'est quand même important, dernière essence de la vie intellectuelle, de savoir de quoi on parle. Et je suis souvent frappé par la qualité de certains étudiants comme tels. Et ça, pour moi, en ces matières, l'intelligence n'a pas de parti. Hein. L'intelligence n'a pas de camp. L'intelligence peut se faire valoir dans tous les camps. Il se trouve, par ailleurs, qu'être dans une situation intellectuellement, dans une perpétuelle remise en question de sa propre légitimité. Hein. Vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes phobe, vous êtes ci, vous êtes d'extrême, toutes les insultes qui peuvent venir, eh bien, ça donne quand même une certaine vigueur intellectuelle pour ne simplement apprendre à ne pas se laisser enfermer dans des catégories aliénantes qui visent à nous transformer en monstres. Yeah. Donc, peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a une telle vigueur intellectuelle chez ces jeunes personnes que j'ai évoquées. C'est en bonne partie parce que, justement, il y a un malaise par rapport à l'époque. Ils le théorisent, ils construisent intellectuellement parce qu'ils sont pas simplement dans la stratégie de carrière qui consiste à embrasser l'idée payante pour avoir son poste plus rapidement. Mais cela dit, oui, évidemment qu'il y a des esprits supérieurs, il y a des esprits particulièrement intelligents dans toutes les tendances, féministes, fédéralistes, multiculturalistes, de gauche, de droite, de centre. Ensuite, on peut avoir nos affinités avec certains plutôt qu'avec d'autres. Mais pour moi, l'intelligence n'a pas de camp. Ensuite, il se trouve que ne pas être dans le discours hégémonique, ça force à faire des efforts intellectuels supplémentaires et on en voit le résultat dans la qualité des textes que j'évoquais tantôt.
Mais j'aime bien ça quand tu parles de d'académiciens, de professeurs et d'étudiants qui embrassent les idées à la mode pour pouvoir faire avancer leur carrière. On peut dire la même chose de certaines animatrices et certains animateurs. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté.
Bonne journée.
Salut, bye bonne bye. Journée.